On va commencer Bezrat Hashem, la lettre numéro 25 de Igaret à Kodesh. La lettre numéro 25, Igaret Rafhe. C'est une lettre, comme j'ai expliqué dans le SMS. Peut-être, comme il y en a qui ont vu ça dans le SMS, ils ont dit on va pas venir. Il va parler de la gravité et des conseils autour de la colère. D'accord ? On va parler de la colère. On va expliquer comment en vérité la colère c'est un problème qui nous touche beaucoup. Et le thème de ce cours, c'est qu'en vérité la colère, c'est un manque de Emouna. Alors c'est facile à le dire. Mais on va essayer de comprendre d'abord pourquoi. On va essayer de comprendre aussi concrètement comment on fait lorsque la colère nous prend. Comment on peut faire pour ne pas s'énerver. Alors dans cette lettre, l'Admor HaZaken va reprendre un texte du Baal Shem Tov. Il faut que je vous fasse une introduction. C'est-à-dire que le Baal Shem Tov, il y a un livre qu'on a du Baal Shem Tov qui s'appelle Tzava'at Aribash. Tzava'a en hébreu, ça veut dire un testament. Ribash, c'est Rabbi Israël Baal Shem Tov. Et donc, il y a un livre qui s'appelle le Testament du Baal Shem Tov. Mais comme on expliquera, en vérité, c'est pas le Testament du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov n'a pas laissé de testament. C'est seulement ses élèves qui ont rassemblé plusieurs élèves, qui ont rassemblé tous les enseignements qui se rappelaient. Et on a compilé de ça un livre, et on a appelé ce livre le Testament du Baal Shem Tov. Testament, c'est comme, ça veut dire ce qui nous reste du Baal Shem Tov. Parce que le Baal Shem Tov n'a pas écrit. Il a rien écrit. Le problème qu'on a, c'est quoi? C'est que c'est pas le Baal Shem Tov qui a écrit ce livre, et qu'une grande partie de ce livre a même été écrit après le départ du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a fait ses discours en yiddish. Maintenant, le livre Tzava'at Aribash, ce livre-là, il a été écrit, bien sûr, en hébreu. D'accord? Et le problème, c'est que des fois, il y a eu des erreurs de traduction, ou il y a eu des choses qui étaient pas assez bien expliquées. Et comme c'était un moment dans lequel il y avait beaucoup de gens qui cherchaient à nuire à la chassidoute, donc il y avait des gens qui utilisaient ce livre pour attaquer. Ils disaient, regardez, voilà ce qui est écrit dans leur livre. Et c'est celui qui cherche des problèmes, il les trouve toujours. Et donc dans cette lettre, l'Admor HaZaken, alors apparemment, on ne sait pas quel était le problème, qu'est-ce qui n'était pas compréhensible, mais apparemment, c'est une lettre qui est venue suite à un bruit qu'il y a eu autour d'un mot du Baal Shem Tov, autour de la colère. Il y aurait des gens qui auraient mal compris. Et c'est pour ça que l'Admor HaZaken a fait une lettre pour expliquer ce que le Baal Shem Tov voulait dire. Vous savez, on dit que l'Admor HaZaken, l'auteur du Tania, était extrêmement lié au Baal Shem Tov. Bien qu'il ne l'ait jamais connu. On dit qu'il l'a vu une seule fois dans sa vie, quand il avait l'âge de 3 ans. Quand il avait l'âge de 3 ans, l'Admor HaZaken, son papa l'a amené chez le Baal Shem Tov pour qu'il lui coupe les cheveux. Mais après, le Baal Shem Tov a dit à son père, au père de l'Admor HaZaken, il a dit, tu me le ramènes plus ici. Il a dit, sa neshama ne m'appartient pas. Sa neshama, elle appartient à mon élève, le Magid de Mezerich. D'accord? Il a dit comme ça. Et on sait que l'Admor HaZaken appelait souvent, quand il disait mon grand-père, on savait que de qui il parlait. Quand il disait mon père, il parlait de son père spirituel, c'était le Maguide de la ville de Mezerich. Quand il disait mon grand-père, c'est qui son grand-père? C'est Baal Shem Tov. Et à tel point, une petite anecdote pour vous illustrer à quel point l'Admor HaZaken était lié au Baal Shem Tov. On voit que lorsque l'Admor HaZaken était en prison. Il était en prison, ils ont tous fait de la prison, hein. D'accord? Parce que à l'époque c'était comme ça, quand celui qui diffusait la Torah, il finissait en prison. Alors, donc lorsqu'il était en prison, bon d'abord bien sûr, on raconte qu'il a reçu la visite dans sa cellule du Magid de Mezerich et du Baal Shem Tov. Et lorsqu'en 91, les portes de l'Union, enfin un petit peu après que les portes de l'Union soviétique sont ouvertes, il y a des gens qui sont partis visiter donc en Russie, ils sont partis à Moscou et notamment ils sont partis dans cette fameuse prison où on sait où avait séjourné le Rabbi, l'Admor HaZaken. Et donc, vous savez, les Russes, ils écrivent tout, ils écrivent, ils gardent les archives de tout. Tout, c'est encore pire que les Allemands sur ça. Marchez même. Et on nous raconte que, donc, ils se sont renseignés dans quelle cellule était l'Admor HaZaken. Et alors, avant, bien sûr, d'aller voir, ils ont demandé la permission au Rabbi, parce que bon, c'est quand même, on va chercher quelque chose quand même, c'est pas rien. Alors, Rabbi, il leur a dit, j'ai une question à vous demander. Est-ce que vous pouvez vérifier, est-ce que dans la cellule, il y avait 3 personnes qui peuvent rentrer? Ça veut dire que le rabbi, quand il lit dans l'histoire, on lui dit qu'il y avait le Maguid de Mezerich et le Baal Shem Tov qui sont venus le voir dans sa cellule, ils étaient déjà chez Hachem, hein, ils étaient déjà partis. Pour le rabbi, il faut prendre ça au premier degré. Mamash, ils étaient là concrètement. D'accord? Alors, à ce propos, on raconte que on a posé, quand l'Admor HaZaken était en prison, il lui a posé 20 questions. Des questions auxquelles il a répondu par écrit, en hébreu. Et qui ont été traduites après, donc de l'hébreu au russe. Nous, aujourd'hui, on n'a pas le manuscrit en hébreu, mais on a le manuscrit en russe. Encore une fois, on l'a retrouvé dans les archives en 91, et ça a été publié. D'ailleurs, ça a même été traduit en français. dans les éditions du Beit Lubavitch, qui s'appelle Plaidoyer pour la Chassidoute. C'est très intéressant, c'est un fascicule avec un fascicule comme ça, avec 20 questions, et il développe toutes les réponses là-bas. Des questions très, très intelligentes, des questions très importantes. Et une des questions qu'on lui a posées, c'était une question qu'on a questionné le chemin du Baal Shem Tov. Et l'Admor HaZaken a raconté plus tard, il a dit qu'à ce moment-là, il me suffisait de dire que je ne suis pas d'accord avec le Baal Shem Tov. Il a dit qu'il y avait un moment dans l'emprisonnement où il lui suffisait de dire « je ne suis pas d'accord avec ce que dit le Baal Shem Tov ». On l'aurait laissé tranquille. Mais il a dit « je n'ai pas voulu le dire, même pas pour sauver ma vie, parce que je ne voulais pas me séparer du Baal Shem Tov, ne serait-ce qu'un seul instant ». D'accord ? Pour vous montrer à quel point l'Admor HaZaken était lié au Baal Shem Tov. Extrêmement lié. Et là, toutes ces lettres qu'on va écrire, c'est pour défendre et expliquer un texte du Baal Shem Tov. Et nous, au passage, on va gagner un Vartora exceptionnel. D'accord ? Ah, c'était la petite introduction. Alors, les Havin, Imrebina, pour comprendre des paroles de sagesse. Maché Katouv, qui est écrit, Besefer Anikra, Tsavaat Ribash. Ce qui est écrit dans le livre qui s'appelle Le Testament de Rabbi Israël Baal Shem Tov. Le livre est appelé comme ça, on a expliqué que le livre est appelé Le Testament du Baal Shem Tov. Agam, bien que, chez Behemet Einat Tsavaat Oklal. En vérité, comme on a expliqué, ce n'est pas le testament du Baal Shem Tov. Pourquoi ? Velo Tsiva Klal Lifne Ptirato. Le Baal Shem Tov n'a pas laissé le testament. Je vais vous dire plus que ça. Le Baal Shem Tov n'a même pas laissé le testament sur qui devait le remplacer. Il n'a pas laissé le testament. Vous vous rappelez, je vous ai raconté l'histoire. Qui c'est qui avait remplacé le Baal Shem Tov ? C'était son fils, Rabbi Tzvi. Et un an plus tard, Rabbi Tzvi a demandé au Maguide de Meseritch de reprendre la place. Il a dit, écoute, je pense que tu es plus adapté pour ça. Et donc, dans ce fameux livre, le livre donc Tsavaat Ribash, le testament du Baal Shem Tov. Donc en vérité, ce n'est pas le testament du Baal Shem Tov. Rak seulement, Emli Kute Imrotav Ateorot. On a fait un recueil des paroles du Baal Shem Tov. Chez l'actu, l'écouté, bâtard, l'écouté. On a rassemblé, d'accord, donc il y avait plusieurs élèves, chacun a rassemblé. Velo yadhu, le chaven, alashon al matkunto. Et il dit, l'Admor HaZaken, il témoigne, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a eu des commentaires qui ont été écrits sur ce livre-là, Tsavaat Haribash, sur le livre du Testament du Baal Shem Tov, pour expliquer ce qu'il veut dire, parce que là-bas, des fois, quand tu lis pas bien, tu peux mal comprendre. Parce que c'est pas le Baal Shem Tov qui a écrit. C'est les élèves qui ont écrit en vrac comme ça, c'est les notes des élèves qui se rappelaient. Vous savez, quand on est en cours, on prend des notes. Si quelqu'un relit tes notes, est-ce qu'il va comprendre forcément ce que t'as écrit? D'accord? Même des fois on croit qu'on comprend, mais en vérité le gars il a mis 2-3 mots parce que pour lui ça lui rappelait certaines choses, mais en vérité on n'a rien compris de ce qu'il a écrit. Ça c'est le problème qu'on a dans le livre Tsavaat Haribash, le testament du Baal Shem Tov. Vous savez aussi à part ça, le Rabbi il a expliqué une fois que la différence qu'il y avait entre les textes du Baal Shem Tov et les textes des rabbis suivants, c'est que le Baal Shem Tov il donnait des phrases très très courtes. Par exemple, le Baal Shem Tov, quand il venait faire une dracha, un discours à ses élèves, il pouvait parler pendant une minute, après c'était fini. Et après de ça, les élèves, ils devaient réfléchir à ça, réfléchir, et tout se passait dans leur tête. D'accord ? C'est après, progressivement, que c'était développé comme ce qu'on fait maintenant, comme ce qu'a fait l'Admor HaZaken, comme ce qu'a fait Rabbi Nachman de Breslev, comme ce qu'ont fait beaucoup de grands, qui ont développé. Mais à l'époque du Baal Shem Tov, on développait pas. Et donc c'est pour ça qu'à cause de ça, comme on développait pas, donc il y a eu des fois des erreurs de compréhension. Ok ? Ach Amekouvan ou émettre la mytho. Mais ce qu'on doit savoir, que ce qui est écrit dans ce livre-là, une fois qu'on réussit à comprendre ce qui est écrit, il faut savoir que c'est archivré. D'accord ? Parce qu'il y a des vraies perles dans ce livre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors de quoi on va parler aujourd'hui ? On va parler de la colère. D'accord ? Ve'u be'agdi ma'amar avotenu zichrona livracha. Donc on va parler de ce qui est expliqué dans le testament du Baal Shem Tov. Donc le testament du Baal Shem Tov, c'est des chapitres, des petits chapitres. Et donc, dans le chapitre 120, il parle de la colère. Ok. Il ramène là-bas, « Où ma'amar abotenu zichronam livracha ?» Il ramène ce que les chachamim m'ont dit. C'est ramené dans le Zohar, que « Kol ha-koes, tout celui qui s'énerve, que ilu oved avodat kochaviv ou mazalot. » Tout celui qui s'énerve, c'est comme si qu'il accomplissait l'idolâtrie. Vous avez déjà entendu ça ?
Oui.
D'accord. Alors la question que tout le monde se pose...
Quel rapport ?
Quel rapport entre... Tu me dis, s'énerver, c'est très grave. Tu me dis, s'énerver, ça mène les malheurs. Tu me dis, quand on s'énerve, Dieu n'est pas content. Tu me dis, quand on s'énerve, je sais pas moi, ça attire le Satan, ça attire ce que tu veux. Ben, raconte-moi ce que tu veux.
On peut altérer ta santé.
Hein ? Voilà, tu peux altérer ta santé. Tu peux... D'ailleurs, c'est vrai, vous savez, on dit que les gens nerveux, ils ont une espérance de vie qui est moins longue que les gens calmes. C'est pas des blagues, hein. Et les gens anxieux aussi, ils vivent moins longtemps que les gens calmes.
Oui, c'est facile.
D'accord, donc on peut dire ça. Mais c'est pas ça ce qu'il te dit, la Gemara. La Gemara, c'est allusion, ça se trouve dans le Zohar. Le Zohar, il te dit que celui qui s'énerve, c'est comme si qu'il accomplissait l'idolâtrie. Quel rapport avec l'idolâtrie? Pas de rapport. D'accord, juste quand on veut marquer, on a envie de marquer les esprits, on dit ouais, c'est comme l'idolâtrie, mais il faut bien qu'il y ait un rapport. D'accord? Il n'y a pas de rapport. C'est comme si tu me dis, celui qui s'énerve, c'est comme s'il a commis l'adultère. Il n'y a pas de rapport. Quel rapport? Alors il explique. Bah, Tam, quelle est la raison? Pourquoi on compare? Tu as trouvé, David?
Oui.
Pourquoi on compare celui qui s'énerve à celui qui est idolâtre? Parce que, qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est Oved, Kochavim ou Mazalot. Ça veut dire, je pense qu'a priori, c'est pas Dieu qui gère le monde, que Dieu a délégué le monde, Dieu a délégué donc la gestion du monde, Kochavim aux étoiles, aux Mazalot et aux astres. C'est comme ça la base de l'idolâtrie. Ça, c'est Maïmonide qui explique longuement. Maïmonide dit, comment on est arrivé aujourd'hui à des gens qui te prennent des statues, d'accord, et qui sont capables de prier devant? C'est des imbéciles, ça. Comment, non, mais c'est vrai, il dit carrément, il dit, c'est des imbéciles. Il dit, mais comment on en est arrivé là? L'homme n'est pas bête, qu'est-ce qui s'est passé? Maïmonide dit, c'est très simple. Dans les lois de l'idolâtrie, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, à l'époque de Enoch, donc ça veut dire déjà à l'époque de Enoch, donc c'est au tout début de la création, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les hommes qui ont dit, Dieu, on a du mal à lui parler, parce que Dieu, on ne l'a jamais vu. On doute pas qu'il existe, mais on a du mal à lui parler, on l'a jamais vu. Alors nous, on va parler à ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on voit? Le soleil, on le voit. La lune, on la voit. Les étoiles, on les voit. La terre, on la voit. La verdure, on la voit. Alors ils ont dit, nous on considère que ceux-là, c'est comme les ministres de Dieu. Donc nous, on va prier au ministre, et le ministre, il fera passer l'information. Seulement quoi? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris?
Ce qu'ils pouvaient déduire, c'est qu'ils avaient une durée de vie qui était là. Soleil, oui. Étoile, machin,
exactement.
Pierre,
en
ils
plus,
avaient une durée de vie.
Leurs parents, vont leur raconter, ça fait 1000 ans et ils étaient toujours là, ils n'ont pas bougé.
Ouais.
Ah, tu comprends, ça marque ça. Alors qu'est-ce qu'ont dit les hommes? Les hommes, ils ont dit, on croit en Dieu, attention, c'est pas qu'on croit pas en Dieu. Bon, comme on a du mal, comme le roi n'est pas accessible, on va passer par les ministres. Seulement, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Ils n'ont pas compris qu'en vérité, le soleil et les astres, c'est pas du tout comme des ministres. Comme explique la Barambam, il dit en vérité, il faut comparer ça à un marteau ou une hache dans la main du bûcheron. Qui c'est qui va couper le bois? Ben, c'est la hache. Mais est-ce que quelqu'un va venir pour vénérer la hache? Non, tout le monde sait que c'est pas la hache qui a coupé. Il dit c'est la même chose. Bon, c'est une erreur qu'ils ont fait. Ils ont fait une erreur. Bon, on leur accorde. Après, progressivement, on a commencé à accorder de l'importance. Après, les gens ont commencé à dire, oui, d'accord, mais le soleil... D'accord, mais le soleil, quand même, on n'arrive pas à lui parler. Il nous répond pas, le soleil. Il nous donne le soleil, mais il nous donne la lumière, il nous donne le soleil, mais... On n'arrive pas à lui parler. Donc, progressivement, comme ça, on est descendu. Jusqu'à la dernière étape, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, bon, on va faire des représentations. Nous, on va leur parler, et eux, ils vont passer le message, satellite. Voilà comment ça tout a démarré.
Vous parlez à quoi?
Eux, ils ont dit, on va faire une représentation du soleil, par exemple, ou des astres, ou d'une idole, ou de quelque chose, d'accord? Nous, on parle à la représentation, d'accord? Et on part de la base que elle va refaire passer le message. D'accord, c'est comme une sorte de...
Oui, d'accord.
Bon, ça tient.
Ouais.
Quand on voit d'où c'est venu, on comprend. Quand tu descends, à chaque fois, tu cherches rien à ton niveau, ben, on descend. Après, à la fin, on se retrouve à faire n'importe quoi. Très bien.
Non, la différence, quand même, dans ces situations idolâtres, c'est qu'à un moment donné, ils sont arrivés non pas à faire l'idolâtrie d'un... On peut penser ça si je pense finalement qu'il y a un dieu et on passe par des réceptacles,
oui.
des trucs. Mais c'est pas ça, à la fin, ils ont fait un dieu de ça. Ils ont même multiplié les...
Ah voilà, mais au début, c'était pas comme ça.
Ouais.
C'est-à-dire, au début, c'est même fort possible qu'au début, ça s'appelait pas de l'idolâtrie.
Ouais.
Nous, on n'a pas le droit. Nous, le Ham Israël, ça s'appelle Shitouf, dans le mot du Rambam, Shitouf. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'associer Dieu. On n'a pas le droit de dire que Dieu est associé avec son fils ou avec, vraiment, comme ils disent dans les... D'accord?
Bien sûr.
Ça, on n'a pas le droit. Mais chez les Goyim, d'accord, il y en a qui disent que les Goyim, il y a certains détails qu'ils ont droit. Ils n'ont pas le droit d'avoir deux dieux, mais ils ont le droit de penser que le dieu est aidé par quelqu'un. Ça, ils ont le droit de le penser. Mm-hmm. C'est une erreur, mais ils ont le droit de le penser. Donc ils ont commencé comme ça. Et après, on descend. Donc finalement, c'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est tu as un dieu qui s'occupe de toi, et tu veux tout faire pour ne pas lui parler. Dieu, il s'occupe de toi. J'ai un dieu qui s'occupe de moi, qui me fait tout pour moi. Et je fais tout pour ne pas lui parler, pour dire, écoute, je sais que tu es là, mais progressivement, après, on va finir par dire qu'il n'est pas là. Jusqu'à la fin, même pas 500 ans plus tard, après l'époque de Enoch, comme dit Rambam, il dit, les gens de la terre ont dit, Dieu a abandonné la terre. Dieu a abandonné la terre, il a délaissé aux astres, d'accord ? Et c'est pour ça qu'ils se sont permis de faire la tour de... C'est Babel. Pourquoi ils se sont permis ? Parce qu'ils se sont dit, ça y est, Dieu a abandonné la terre. Dieu a laissé la gestion au soleil, et le soleil, nous, on gère. D'accord ? Ça, c'est le problème. Donc, c'est quoi l'idolâtrie ? L'idolâtrie, c'est ne pas vouloir admettre que c'est Dieu qui gère le monde et faire tout pour croire que c'est autre chose qui gère le monde. C'est ça, l'idolâtrie. Très bien. Mais ce qu'elle va expliquer, la Gemara Zaken, c'est qu'en vérité, la colère, c'est exactement la même chose. Pourquoi ? Attends, c'est difficile, ça. C'est très facile à dire, mais c'est très difficile à comprendre et très difficile à mettre en pratique.
À contrôler, surtout.
D'accord ? Surtout à contrôler. Parce que, pourquoi je m'énerve ? Quand il est venu ici, il m'a insulté.
Ouais, c'est finalement, parce que c'est pas... Finalement, on peut penser que finalement, c'est pas Dieu qui maîtrise tout.
Voilà.
C'est ça le...
Ah oui, t'as un monsieur, d'accord, j'étais en train de marcher dans la rue.
Alors que finalement, d'accord. c'est arrivé, c'est quelque part... C'est...
Ah bah oui, je marche dans la rue, et t'as quelqu'un qui me dit, sale juif, il m'insulte comme ça. Ça m'énerve. Pourquoi ça m'énerve ? Bah, ça m'énerve parce que je me dis, pour qui il se prend celui-là ? Pourquoi il m'a parlé comme ça ? Et j'ai oublié quelque chose. C'est que... Si, c'est ce qu'il va expliquer, parce que ça, là on va toucher aux notions de libre-arbitre, etc. Parce que ce qu'il va expliquer ici, c'est que s'il te l'a dit, c'est que Dieu voulait que quelqu'un te dise ça. Il fallait que quelqu'un te dise ça. Pourquoi ? Ça c'est une autre question.
Mais ça énerve aussi.
D'accord ? Non ?
De ne pas comprendre pourquoi.
Dieu veut pourtant bien. Dieu veut des fois nous savonner un petit peu. Quand on savonne, ça, quand on écrase, comme ça, il faut bien frotter.
Quelqu'un qui t'énerve, tu dis pourquoi il m'énerve ?
Mais finalement, c'est quoi ? Quand je m'énerve, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a un phénomène qui est en train de se passer, et moi, au lieu de dire c'est Dieu qui m'envoie ce phénomène, je vais essayer de réfléchir où je peux faire teshuva et qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout faire pour mettre de côté l'existence de Dieu, et je vais chercher à attribuer le problème à d'autres phénomènes, comme à la colère d'un tel, ou comme à l'imbécilité de celui-là, ou comme, etc. Exactement comme l'idolâtrie. C'est-à-dire, au lieu de croire en Dieu, qu'est-ce qu'il faisait ? Ils attribuaient tous les bienfaits de la nature aux astres. Et ben c'est la même chose, la colère. Au lieu d'attribuer ce qui m'est arrivé à Dieu, je vais l'attribuer à toutes sortes d'autres choses. À sa femme, à ses enfants, à son garagiste, à son docteur, à qui tu veux, à son patron, à son employé, à qui tu veux. On peut faire passer les mots sur toi. Mais finalement, c'est exactement le même concept que l'idolâtrie. C'est la même chose. D'accord ? Arrive à expliquer. C'est compliqué de dire ça, parce que... Pourquoi c'est compliqué ? Parce que j'ai affaire à une personne qui a voulu m'embêter, celui qui est en face de moi, celui qui m'a insulté. Et c'est pas un robot. Il a décidé, je vais venir, je vais l'insulter, et je vois dans ses yeux qu'il avait de la haine, et c'est sûr que même si Dieu serait venu le voir à ce moment-là, il lui avait demandé « Est-ce que tu as de la haine ?» Il aurait répondu « Oui. » Donc, tu peux pas venir dire que Dieu qui a envoyé. L'autre, il a sa part quand même dedans. Comment tu peux comprendre ça ? Vous comprenez ma question ? Ça veut dire que, ok, je viens accepter que c'est Dieu qui me l'envoie, mais quand même, ça s'est pas passé tout seul. C'est pas un message qui m'est venu du ciel. Tu sais quoi, à la limite, s'il y a un message qui sort du ciel et qui me dit « t'es un imbécile », je l'accepte. Ah, je prends, pas de problème. Ah, j'écoute, ah, d'accord, je suis un imbécile, je vais faire tchouva. Mais quand c'est quelqu'un qui me le sort avec toute la haine, je dis « attends, tu peux pas me dire qu'il y a que Dieu dedans ? T'as vu le gars comment il m'a parlé ? Tu peux pas dire qu'il y a que Dieu dedans ? Comment on peut expliquer ça ? Ça, la demande qu'elle va développer. Vous êtes prêts ? Mm-hmm. On y va. Alors, je prends un Ve'ata'am. Ve'ata'am, la raison. Quelle est la raison pourquoi l'idolâtrie, pourquoi le karas, pourquoi la colère a été comparée à
l'idolâtrie.
Pourquoi ? Mouvan l'yeud de Bina. C'est compréhensible à ceux qui comprennent la Kabbalah. Pourquoi ? Le fiche be'et kaso, lorsqu'on s'énerve, nistal kami menu emuna. Lorsque je m'énerve, en vérité, ça veut dire que je n'ai plus la emuna. Je quitte la emuna. C'est-à-dire que je fais tout, comme dans l'idolâtrie, pour ne pas croire, pour ne pas avoir la emuna, que ce qui m'arrive vient de Dieu. Qui il ou ayama amin, si il croyait, shem et hachem aita zotlo, si il croyait que ce qui lui arrive lui vient d'Akadosh Baruch Hu, que les paroles qui ont été dirigées contre moi, les actions qui ont été dirigées contre moi, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait ça ? Ça, c'est une autre question. Peut-être qu'il veut, je sais pas pourquoi, peut-être c'est une punition, peut-être c'est un tikkun, peut-être c'est... Ça, c'est une autre question, c'est pas la question. Mais déjà, dès le départ, le fait que je m'énerve, c'est parce que je pense qu'il y a quelque chose qui n'est plus dans mon contrôle. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Pourquoi c'est pas normal ? Parce que moi, je suis pas d'accord. Toi, t'es pas d'accord. Mais si Dieu a laissé faire, c'est que Dieu est d'accord de ça. Alors, il va expliquer. Donc, il loyem bekasklal. Il dit, si Bémet, on était ma'amin, on croyait que ça nous vient de Dieu, on ne serait pas énervé. Maintenant, il va poser la question que je vous ai posée.
Passif après.
Hein
oui, mais après, c'est dans. C'est, alors, okay, tout vient de, mais à un moment donné, tu sais, sans t'énerver, mais tu peux aussi ne pas être d'accord. Ou... Voilà, c'est.
Exactement.
Ça peut t'énerver intérieurement, mais ça peut te permettre aussi. C'est quoi d'énerver ? C'est-à-dire, c'est perdre le contrôle. Ou dire, ça peut t'énerver au fond de
pourquoi
toi.
Pourquoi je m'énerve ? Alors, c'est quoi l'énerve ?
Attention. Il y a deux façons de dire, est-ce qu'on a, quand tu dis d'aborder, de s'énerver, est-ce que c'est énervé jusqu'à en perdre toi-même le contrôle de ce que tu pourrais faire ou dire, ou bien ça t'énerve intérieurement, mais ça te permet de réagir pour ne pas être d'accord avec ce qui se passe.
J'ai compris.
Oui. Voilà, c'est pas la même chose.
C'est quoi la colère, finalement ? La colère, c'est quand il y a quelque chose qui se passe.
Colère froide et d'accord. Une colère chaude.
Même une colère froide.
Voilà.
Même une colère froide, la seule différence, c'est est-ce que la personne va s'emporter ou est-ce qu'il va s'emporter dans sa tête. Dans tous les cas, quand il y a une colère, on s'emporte au moins dans le cerveau, dans la tête.
C'est clair.
La preuve, c'est que quand on est pris par une colère,
quand on est
énervé contre quelqu'un, on n'arrive plus à penser à rien du tout. On est pris par ça.
Ça nous
up, d'accord ? Ça nous prend. On n'en prend pas qu'à ça. Mm. Bon. Alors, mais pourquoi, d'où vient la colère ? D'où vient la colère ?
Notre orgueil.
D'accord ? Très simple. Oui, mais pourquoi, d'où, c'est quoi la colère ? Pourquoi quand il y a la colère, je n'arrive plus à rien faire ? La colère, c'est comme les larmes. C'est la même chose. Mm-hmm. C'est quelque chose qui me dépasse. Pourquoi une personne pleure ? On peut pleurer de joie aussi. Pourquoi il pleure ? Pourquoi on pleure ? Pourquoi il y a des fois des gens, à un certain moment, on se met à pleurer ? Quand on pleure, c'est expliqué en chassidoute, c'est parce que la situation est tellement forte qu'on n'arrive même pas à l'exprimer dans des mots. Et donc, du coup, le cerveau, c'est trop fort pour lui, donc ça s'exprime avec des larmes. Et bien, c'est la même chose, la colère. Quand on a quelque chose qui nous énerve, pourquoi ça nous énerve ? Parce qu'on pense qu'on ne maîtrise pas la situation. On ne comprend pas ce qui se passe. Ça nous énerve, c'est plus fort que nous. On n'arrive pas à contrôler. Comme on n'arrive pas à contrôler, donc on explose. En vérité, on a toujours des pulsions. Mais ces pulsions, on les contrôle. Parce que notre cerveau, il explique, il dit attention, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais quand il y a quelqu'un qui m'énerve, qu'est-ce qui se passe ?
Il n'y a pas d'accord ? De ça.
C'est un... Quand il m'énerve, mon cerveau ne comprend pas ce qui se passe. Donc mon cerveau explose, il craque, il dit bon, moi je lâche, d'accord ? Et quand il lâche, qui c'est qui prend le relais ?
Les larmes.
C'est les sentiments.
Les sentiments.
Et les sentiments, c'est l'aspect animal qu'on a en nous. Parce qu'on a tous un aspect animal en nous. Mmh. D'accord ? On est des animaux. On est des animaux, mais avec un cerveau qui est capable de calmer les instincts animaux. On est d'accord, David ?
Mmh.
C'est ça le problème. Donc le problème, c'est quand je m'énerve, qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un qui m'a énervé, quelque chose qui m'a énervé, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça veut dire quand je me suis énervé ? Quand je me suis énervé, ça veut dire que j'estime que ce qui s'est passé n'est pas normal. Je suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Ça me dépasse, c'est trop fort. Donc ça m'énerve. Et je vais piquer une crise de nerfs parce que je vais, c'est mon côté animal qui va ressortir. Très bien.
Ça fait des dégâts.
D'accord ? Ça fait des dégâts. Bah oui. C'est comme un animal. Exactement comme un... Au moment où une personne s'énerve, il devient comme un animal. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu prends un lion, tu le mets dans une pièce ici. Est-ce que tu aurais laissé un lion dans une pièce ici ? Ça fait des dégâts, c'est sûr, tu vas le laisser, il va tout casser. Et bah quand une personne s'énerve, il devient comme un lion. Il devient comme une bête sauvage. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que la colère, encore une fois, d'où est venue du fait que je n'avais pas la emouna, que ça vient de Akadosh Baruch Hu. Mais comme je vous ai expliqué, comme il m'a posé la question, il dit, c'est pas facile de dire ça. Parce que si tu me dis encore, voilà, une personne avait une affaire, il avait, je sais pas moi par exemple, il avait des bateaux, d'accord ? Et il avait donc toute une flotte, et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une tempête et tout s'est renversé. Bah, d'accord ? Bien sûr, ça va l'énerver. Mais là, il peut se dire que qui c'est qui a envoyé cette épreuve ? C'est Hachem, c'est Dieu. Parce qu'il sait que c'est un élément qui n'est pas maîtrisé par l'homme. Il sait que c'est pas un homme qui est venu pour l'embêter, qui a dit « Allez, vas-y, on va t'envoyer une tempête. » Ça marche pas, ça. Donc, là, à ce moment-là, on accepte. Je dis « Ok, dans ce cas-là, je vais bien accepter que c'est Dieu qui m'envoie la claque. Ok, je la prends, je me tais et j'espère que je vais réussir à la passer. » C'est la même chose quand il y a une maladie. Quand il y a une maladie, Dieu préserve qui nous tombe dessus. D'accord ? Dieu préserve. C'est la même chose. Personne ne va te dire que la maladie est venue par quelqu'un. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé. Donc, kaviachol, si on peut dire, c'est pas que c'est facile, mais au moins on peut s'expliquer. Je peux m'expliquer, je peux me dire, bon, c'est vrai que je comprends pas, c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est pas normal, mais je sais que c'est Dieu qui est derrière, parce que c'est Dieu qui a fait cette tempête, c'est Dieu qui a mis cette maladie. Là, c'est encore relativement pas facile, mais c'est jouable. C'est faisable. Tu peux, une personne qui a de la Emouna, il peut se dire, bon, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est quelqu'un qui vient, qui prend un pistolet et qui tire sur quelqu'un d'autre ? Imaginez-vous maintenant. Imaginez-vous quelqu'un qui prend un pistolet et il tue quelqu'un d'autre. Comment va se sentir la famille de cette personne-là ?
C'est passé cette semaine.
D'accord ?
J'ai entendu ce qui s'est passé à Lille. Un type qui l'ont... ils sont en train de le rechercher. Il n'a pas voulu être accepté dans une boîte de nuit. Il est venu avec une Kalachnikov, il a tiré sur tout le monde. Il a tué deux personnes, il a blessé ses filles, j'ai entendu.
On l'a vu à Toulouse, hein, chez nous.
Bien sûr. Oui, ça. C'est... Non, mais là, il avait... là, c'est différent. Là, c'était réfléchi. Là, finalement, parce qu'il était en colère qu'on ne l'a pas laissé rentrer, il a dit excuse. Il est revenu, tac, il a tué deux personnes.
Pourquoi ?
Là, c'est encore pire à Toulouse parce que c'est. Prémédité, froid, c'est tout ce qu'on veut.
Mais justement, c'est pire. Voilà, encore. On va prendre comment ça.
Là, il est même pas sous la colère.
C'est pas joli de prendre cet événement, mais on va prendre l'événement de Toulouse.
C'est pas sous la colère, là.
Pourquoi c'était une colère, cet événement de Toulouse ? Imaginez-vous, Dieu préserve, que ces enfants, hein, parce que vous avez parlé de cet exemple, imaginez-vous, Dieu préserve, que ces enfants, hein, Dieu préserve. C'est pas qu'il y avait un marchemo qui était venu les tuer, d'accord ? Marchemo, mais c'est qu'ils étaient tombés malades. On aurait accepté beaucoup plus facilement. Bon, ils étaient malades, bien sûr que ça fait beaucoup de peine, on pleure, c'est difficile, etc. On accepte beaucoup plus. On accepte. Bon, on accepte, c'est un cadeau, je vous envoyé, c'est une épreuve. Mais pourquoi on avait beaucoup de mal à accepter ce qui s'est passé à Toulouse? Parce que c'est pas une maladie. C'est quelqu'un qui a décidé, froidement, de venir tuer des gens. Et donc la question qu'on se pose, c'est comment, même dans un cas comme ça, tu peux venir et dire ça vient de Dieu. Même là, tu dis ça vient de Dieu? Est-ce que là, j'ai pas le droit de m'énerver? Bon, là, j'admets le cas extrême, mais ça peut être aussi quelqu'un qui m'a fait une crasse, excusez-moi du terme. Je dis, si c'est venu comme ça, bon, j'ai investi dans quelque chose, ça a pas marché, c'est cassé la figure, bon, capara, comme on dit. Mais comment tu peux dire? Comment tu peux dire bonsoir? Comment tu peux dire? Il est pas là, comment il s'appelle? Shlomo?
Toujours?
Oui. Il fait quand l'Aliya?
Il fait l'Aliya, Shlomo?
C'est pas lui qui fait l'Aliya?
Ah, lequel? Ah oui, l'autre, Shlomo Toledano.
Oui.
Ah, je sais pas où il est, mais je crois que c'était le... Il a fait pour son père, là.
Il fait bientôt l'Aliya, c'est ça?
Ouais. Shlomo,
ouais.
Il fait aussi l'Aliya? Ouais, là, il a fait pour son père à Sina, je crois. Là.
Ah, d'accord, ok.
Ah, c'est son Aliya aussi. Khazak, ça fait deux personnes.
Oh, voilà.
C'est bien. C'est peur, je crois que tu parlais de...
Donc, je suis en train d'expliquer, je suis en train de dire...
Celui qui vient au cours, on parle de...
Oui, oui, bien
sûr. Je suis en train d'expliquer comment on peut expliquer dans une situation comme ça, quand tu as une personne qui est venue te faire une crasse, d'accord, qui est venue t'embêter, ou bien comme on a donné l'exemple, qui s'est passé à Toulouse par exemple, d'accord, comment tu peux dire dans un cas comme ça que ça vient de Dieu? Quand c'est une maladie que Dieu a envoyée, c'est une chose, bon, j'accepte que ça vient d'un Kadosh Baruch Hu. Quand c'est une tempête, j'accepte que ça vient d'un Kadosh Baruch Hu. Quand c'est quelque chose qui s'effondre, j'accepte que ça vient d'un Kadosh Baruch Hu. Quand c'est une épreuve comme ça, j'accepte. Mais quand c'est quelqu'un qui a eu un libre arbitre et qui a décidé de venir faire quelque chose de mal. Comment je peux venir et dire ça vient de Dieu? Ça vient pas de Dieu, ça vient de son libre arbitre. La preuve, c'est que s'il n'avait pas décidé, je l'aurais pas eu. C'est comme ça qu'on a envie de dire. Ben non. Morozakan va expliquer que même dans un cas comme ça, on doit se dire ça vient d'un Kadosh Baruch Hu. Mais là, c'est, en général, c'est ça les cas les plus durs. C'est ça les cas en général où on a le plus de mal à... On se dit, mais c'est dommage pour une bêtise. S'il y avait, tu sais, j'ai toujours les si. On me dit, oui, mais s'il y avait les caméras, et s'il y avait ça, on aurait pu peut-être sauver. Toujours les si. D'accord, bien sûr qu'il faut faire tout ce qu'on peut. Il faut faire le Kelly. Mais nous, ce qu'on va savoir, c'est que ça vient d'un Kadosh Baruch Hu. Ah, pourtant, il y a eu un fou qui a fait ça. Et qui va être puni pour ça. Alors, comment. Vous comprenez le dilemme qu'on a ici? Comment, d'un côté, tu as une personne qui a décidé de faire une bêtise. Et qui va être puni pour ça. Et d'un autre côté, tu dis. Mais en vérité, tu devais recevoir la punition. Alors, il faut se décider. Si, de toutes les façons, je devais recevoir la punition, alors pourquoi?
Et encore, on va
pourquoi
se dire,
le messager de
et
Dieu
encore, on va se dire à nos yeux, ça paraît comme une punition.
Exactement.
Voilà.
Nous, on sait, je vais vous faire un calcul, faire un calcul qui peut aller très loin. C'est, d'accord?
Non, oui. Nos yeux,
attends,
ça,
alors
nos
je vais poser une question. Puisque tu me dis que ces enfants, c'est des sacrifices, ça veut dire que celui qui les a tués, c'est un prêtre.
On ira pas aussi loin, mais...
Pourquoi pas?
Oui, pourquoi pas, mais bon, n'empêche qu'on...
Tu comprends le dilemme qu'on a ici?
Notre déduction, on ira pas aussi loin, déjà, c'est dur.
Non, c'est pas forcément ça.
Il y a une contradiction. D'un côté, tu me dis que c'est Dieu qui a décidé, et qu'il y a que du chesed qui vient de Dieu, et que même si on n'a pas compris, il y a que du chesed qui vient de Dieu, donc il faut pas s'énerver. Et d'un autre côté, tu dis, alors dans ce cas-là, celui qui a tué, il a rien fait? Il a fait une mitzvah? Pratiquement, c'est une mitzvah ce qu'il a fait?
Oui.
Comment on peut parler comme ça?
Il se sert de... Des rachats pour punir.
Ça veut dire quoi?
Comme il a fait avec Pharaon.
Ah non, attention, c'est vrai que l'histoire du rachat. Est-ce que le rachat a décidé de son libre arbitre de tuer? Oui ou non?
Il a son libre arbitre.
Est-ce qu'il a décidé?
Il y en a qui peuvent refuser.
Non.
Si.
Alors, on va voir, on va expliquer que
ouais,
oui.
Dieu, comme
Dieu il agit pas sur les
alors, dans ce cas-là,
Dieu il agit pas sur les cœurs.
Non, ça c'est ce que tu dis que Dieu choisit les rachats, c'est pas pour ça. Ça c'est quand c'est des cas de, ça c'est quand c'est des cas de force majeure, ou des cas pardon, qu'on a fait sans faire exprès. Que là, Kadosh Rousse s'arrange pour que les comptes se règlent sans qu'on le cherche. Mais quand t'as une personne.
Il a son libre arbitre.
Il a son libre arbitre. Il a pris le pistolet, il a appuyé sur la gâchette, il a tiré. Tu vas pas me raconter que c'est quelqu'un d'autre qui l'est. Tu vas pas me raconter que c'est Dieu qui a tiré sur la gâchette. C'est lui qui a tiré. Alors imagine-toi maintenant ce que ces gens-là, ils se disent dans leur tête. C'est proche de cette personne-là.
Mais s'il en arrive là, quand même, le libre arbitre, il a été faussé.
Attends, pourquoi ? Non ? Alors dans ce cas-là, pourquoi tu le punis ?
Pourquoi
tu punis ?
Il a pas libre arbitre. Si c'est juste
attends,
un
pourquoi tu punis ?
Il a son libre arbitre.
Bien sûr qu'il est puni. Il est puni. À l'époque, même dans la Torah, on doit le mettre à mort une personne comme ça. Pourquoi tu le punis ?
S'il n'a pas le libre arbitre et qu'il est.
S'il n'a pas le libre arbitre, c'est le message de Dieu.
Avec Pharaon, il lui a modifié son libre arbitre et il l'a puni.
Non, non. Pharaon, c'est autre chose. Pharaon, c'était une personne que Dieu devait punir.
Alors peut-être que lui aussi.
Et donc, pour pouvoir le punir, il durcissait son cœur. Pour lui donner la punition qu'il devait lui donner. Ça, c'est autre chose.
Mais le mec qui a tué, il va être puni aussi.
D'accord. Alors, c'est ma question.
Bah donc, il va être puni, ça se trouve, il devait être puni. Et...
Mais quand même, mais celui qui a appuyé sur la gâchette, est-ce qu'il a fait. Est-ce que s'il avait décidé. Qu'est-ce qui serait passé s'il avait décidé de ne pas appuyer sur la gâchette ?
Ça ne serait pas quelqu'un.
D'accord. Alors justement, ce qu'on va essayer d'expliquer, c'est compliqué ça. Parce que mettez-vous dans la tête de ceux du présent qui ont perdu comme ça des proches. Mmh. Imaginez-vous ce qu'ils disent. Des fois, c'est un accident de voiture, Dieu préserve. Un gars qui a grillé une priorité, et pas qui fonce dedans, et Dieu préserve la catastrophe. Imaginez-vous ce qu'ils disent maintenant la famille de cette personne-là. Ils disent, mais s'il n'y avait pas ce fou, on aurait eu avec nous notre fils.
Oui, mais le mec,
et ils ont raison.
Il n'a pas fait exprès aussi.
D'accord.
Là, c'est différent comme cas. Différent comme cas. Il n'a pas délibérément écrasé.
Je comprends,
ça change pas, oui.
Quelque part, tu ne peux pas les laisser... Je comprends ce que tu veux dire, mais... Tu n'enlèveras pas ces personnes, toujours ce sentiment-là.
Alors, est-ce qu'ils
c'est
font...
très difficile.
Bien sûr.
C'est très difficile de leur dire... Voilà, c'est
de
ne
pas en vouloir au tueur.
Exactement, de ne pas en vouloir et ne pas se dire s'il n'y avait pas eu cet événement. Je comprends de passer à l'autre étape dans le concept.
C'est très difficile.
Mais
très difficile.
Celui qui, comment tu peux lui... Comment il peut arriver jusqu'à cette réflexion.
Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Du coup, ça t'énerve. Bien c'est sûr. Pour ça. On a un sentiment de rage.
De
haine.
D'injustice.
T'as un sentiment de colère, c'est une colère. Quand t'as des événements comme ça, il y a une colère. Ben, la Gemara Zaken va expliquer, elle a dit que cette colère n'est pas normale. La vengeance, ça existe dans la Torah. De la part d'Akadosh Baruch Hu. Mais pas la colère. Tu peux pas être en colère contre Akadosh Baruch Hu.
Accepté.
D'accord ? Ce qu'il va expliquer, c'est une notion qui est pas facile à comprendre. On va expliquer. Af, chez Ben Adam, je suis avec Af. Quelle page on est là dans le...
276.
Av chez Ben Adam, chez Hubal Prira. Bien que c'est un homme qui est Bal Prira, c'est un homme qui a le libre arbitre. Mais Kalelo, c'est lui qui va le maudire, au Makeu, ou le frapper, au Mazik Mamono, ou qui va causer du tort à mon argent. C'est-à-dire rien qui va me faire une crasse. Ou Mitraïev et Dine Adam. Et on viendra pas te dire il a fait une mitzvah. La preuve c'est quoi ? C'est que je vais l'attaquer au Beddin. Le Beddin avec les halakhot de la Torah. Et qu'est-ce que va dire le Beddin ? Le Beddin va dire il doit rembourser. C'est-à-dire que le Beddin accepte que ce monsieur m'a causé un préjudice, un dommage. Donc la Torah accepte qu'il m'a causé un dommage. Ou Beddin et Shamaim. Des fois quand c'est quelque chose qui n'est pas prouvable, qu'on peut pas certifier dans un tribunal, alors qui c'est qui va régler les affaires ? C'est Dieu. Pourquoi Dieu va régler ses affaires ? Al roi prirato. Dieu va régler les affaires. Al roi prirato, parce qu'on dit, monsieur un tel, tu as décidé, tu as fait le choix de faire la bêtise ou de ne pas la faire. Tu as décidé de faire la bêtise, donc tu vas être puni pour ça. Alors comment tu peux venir maintenant voir la victime et lui dire, sache qu'en vérité, ce qui t'est arrivé devait t'arriver. C'est très difficile. Il dit à Falpiken, quand même, est-ce que vous comprenez sa question ? Il dit, c'est-à-dire que même Alpi Torah, c'est pas seulement... C'est, on n'a même pas besoin d'aller chercher midi à 14h, c'est même Alpi Torah. Alpi Torah, on voit ici que cette personne, s'il y a une personne, imaginez-vous, quelqu'un qui vient, d'accord, qui rentre au Beit Rabbad, qui prend mon chapeau, il prend un cutter et il coupe en deux. Ah, comme ça. D'accord, voilà, on va pas faire des exemples trop...
C'est pas très grave.
D'accord, c'est pas très grave. D'accord, ouais. Non, j'ai pas envie de parler d'autre chose. Imaginez-vous quelqu'un qui rentre au Beit Rabban, d'accord, le Loubavitch, etc. Il prend le chapeau, il coupe en deux. D'accord ?
Il y a deux chapeaux.
Alors, bon, j'ai un autre chapeau à la maison, mais c'est pas grave. Ça fait quand même. C'est un préjudice. Si cette personne-là, maintenant, je vais l'attaquer au Beit Din. Je veux dire, voilà, il m'a cassé mon. Il m'a détruit mon chapeau, donc il doit me rembourser la valeur du chapeau. Le Beit Din va me donner raison ou pas ?
Bien sûr.
Sûr. Le Beit Din va lui demander, il va dire, monsieur, vous devez rembourser le dommage que vous avez fait. Donc pourquoi ?
Préjudice moral aussi.
Préjudice moral, etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a fait un dommage. Et même si le Beit Din n'arrive pas à prouver qu'il m'a fait un dommage, c'est Dieu qui réglera son compte. Parce que Dieu règle tous les comptes.
Mais si tu acceptes finalement que ça vient
si
de Dieu,
si tu acceptes ça vient de Dieu, voilà. Non, pas pourquoi tu demandes ? Pourquoi ? Comment le Beit Din peut le punir ?
Ouais, c'est ça.
Tu comprends ? Comment le Beit Din peut le punir ? Alors ça, ce qu'il explique ici. Il dit qu'en vérité, pourquoi on punit la personne, celui qui a fait la faute ?
Parce qu'il avait la possibilité de ne pas le faire.
Alors, il va expliquer ça. Pourquoi on va punir celui qui a fait la faute ? On ne le punit pas parce qu'il a tué. On le punit parce qu'il a décidé d'être celui qui va tuer. C'est pas la même chose. On ne le punit pas parce qu'il a tué. Parce que si cette personne est morte, c'est qu'elle devait mourir. Donc, si mon chapeau... On va passer au chapeau parce que je n'ai pas parlé de ce
finalement,
truc. Si mon chapeau a été coupé en deux, c'est qu'il devait être coupé en deux.
Mais non, si Dieu finalement trouve aucun chaliard, la peine ne peut
pas... Eh ben, mon chapeau aurait pu tomber. Non, il aurait pu tomber au-dessus des rails du tram, et là, que le tram y passe, il se coupe en deux.
Donc c'est... Après, ça aurait été le... D'accord. Donc il y aura toujours quelqu'un...
Seulement, t'as quelqu'un qui est venu, et qui a dit, moi, je vais être le messager de Dieu, pour le mal. Pourquoi on va le punir ? On va pas le punir parce qu'il a fait quelque chose de mal. Parce que ça, c'est Dieu qui a décidé. On va le punir parce qu'il a décidé d'être le messager qui va véhiculer le mal. Il lui dit, c'était pas obligé d'être toi. Ça aurait pu se faire par la nature. Mais ça veut dire que finalement, ce qu'on comprend ici, c'est qu'on peut pas avoir de colère. On peut à la limite être énervé contre la personne et lui dire, mais pourquoi c'est toi qui m'as fait ça ? Des fois, c'est un ami qui te fait une crasse, mais pourquoi c'est lui qui me fait ça ? Ça peut te faire de la peine. Mais ce que tu dois savoir, c'est que ce qui t'est arrivé devait t'arriver. Ça fait de la peine des fois quand ça arrive des personnes qu'on ne s'attendait pas. Ça fait de la peine. D'accord ? Mais ce qu'on doit savoir, c'est que ce qui nous est arrivé devait nous arriver. Et quand on admet ça, automatiquement, on éradique tout de suite le concept de kahas, de colère. Parce qu'il n'y a plus la colère, la frustration de dire que je suis frustré, comment ça a pu m'arriver, comment il a pu me faire ça. Non, j'ai plus la colère. Je suis peut-être dégoûté. Je suis écœuré que c'est un ami à moi qui m'a fait ça. Ça me fait beaucoup de peine. Mais je peux pas être en colère. Me dire, mais à cause de lui, ça s'est cassé. Non, c'est pas à cause de lui. Lui a décidé d'être le messager pour le faire. C'est pas la même chose. D'accord ? C'est quelque chose qu'il faut beaucoup, beaucoup méditer, mais c'est très compliqué. C'est compliqué. Essayez la prochaine fois que vous avez un coup de colère comme ça, un truc qui t'énerve, tu te dis, ouais, attends, c'est Dieu. Tu dis, bon, attends, sois tranquille, j'ai pas le temps de réfléchir maintenant, je suis énervé. Ah oui, c'est compliqué. Ça veut dire qu'en vérité, c'est une réflexion qu'on doit avoir bien avant qu'on s'énerve. C'est maintenant qu'on doit réfléchir à ça. Comme ça, quand ça nous arrive, on arrive à se calmer. Oui. Ça, en vérité, c'est pour nous aider à nous calmer.
Parce que t'es quand même énervé.
Quoi ?
Parce que t'es quand même énervé.
C'est que t'as pas bien compris
la leçon.
Non, ça veut dire qu'à un certain moment, t'as le sang qui monte à la tête.
Au fond de toi, t'es énervé, c'est un truc qui va pas.
Non, c'est la colère froide, ce qu'il a dit. Non, même ça, c'est pas bon.
À l'intérieur, tu peux pas contrôler ce sentiment, même si tu...
Mais tu peux contrôler. Si tu te dis que c'est Dieu qui l'a fait, ça te fait de la peine que lui a décidé d'être le messager. Mais si on te dit que c'est Dieu qui l'a fait, c'est pas lui qui l'a fait. C'est-à-dire, lui, il l'a fait, mais de toutes les façons, ça aurait dû t'arriver. Donc ouais. La colère contre la personne qui l'a fait est beaucoup moins forte.
La seule façon de s'en sortir, c'est de dire merci tout de suite.
Merci.
Merci. C'est-à-dire, c'est la cloche boire rouge, parce qu'on sait tout ce qui fait, c'est pour le bien.
Non, c'est pas écrit qu'il faut dire merci.
Dans ta tête, tu dis merci, c'est... Bon, après, il faut faire tes choubas. C'est sûr qu'il t'envoie une épreuve, il faut la... Alors, demander pourquoi, mais si tu dis pas merci, finalement, t'as toujours ce sentiment d'être énervé.
Non, c'est pas merci, mais quand il y a des choses qui nous arrivent, il faut se poser des questions.
Il
faut se dire qu'est-ce qui se passe, pas normal.
Merci à Kadosh Baruch Hu de me réprimander, mais...
D'accord. Mais ça, c'est beaucoup plus difficile quand la personne qui a causé le tort, c'est une personne, et c'est pas un phénomène de la nature. Vous comprenez, quand c'est un ouragan, un tsunami, une maladie, ou Dieu préserve des trucs comme ça, on a beaucoup plus de facilité à accepter que c'est Akadosh Baruch Hu, parce qu'on sait qu'il n'est pas venu tout seul, ce phénomène. Après, il a touché telle personne et pas telle personne. C'est Dieu. Donc, on accepte ça. Mais quand c'est une personne qui était mêlée à ça, on a beaucoup de mal à accepter. C'est comme des fois, voilà, par exemple, je sais, c'est arrivé avec mon grand-père à la vache à l'homme. Il y avait le docteur qui avait fait une erreur dans notre traitement. D'accord ? A priori, à cause de ça, il est parti. D'accord ? Enfin, c'était une erreur. Bon, il était déjà très, 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 très malade. Mais ça aurait pu être quelques, il aurait pu rester encore quelques mois, c'est quelques années. Alors c'est un sentiment très difficile quand ça arrive. Mm-hmm. C'est un sentiment très difficile. Tu dis, mais attends, ça veut dire que s'il n'a pas fait l'erreur, il sera avec nous encore. Et je veux dire, scientifiquement parlant, tout te dit comme ça. Et de te dire que non, en vérité, c'était le moment où il devait partir, mais que le docteur a été celui qui a fait, bon, ben, il n'est même pas fautif, il a fait ce qu'il a pu, c'était une erreur médicale, ça arrive. Et de dire des choses comme ça, c'est difficile, c'est un travail.
On n'empêche pas qu'il faut attaquer le médecin devant les tribunaux.
C'est clair, d'accord. Non,
ça, non, je ne sais pas si c'est clair. Non, je ne dis pas si c'est clair, je te pose la question. Est-ce que pour autant...
Bien sûr.
Oui.
Bien sûr qu'il faut attaquer.
D'accord.
Bien sûr qu'il faut attaquer le médecin. Ouais, mon beau-père, à la vache à l'homme, il est parti aussi comme ça avec une erreur...
Médicale.
Une erreur médicale. Oui. Non, il était déjà malade. À cause de son travail, il avait... Bon, c'était compliqué, c'est très compliqué avec les assurances, ils sont très très compliqués, hein, ne crois pas, ils sont rodés pour ça là-bas.
Bien sûr.
Depuis 7 ans que ça s'est passé, la belle-mère elle est encore en jugement avec eux. Bon, c'est payé par le syndic où il travaillait, mon beau-père, mais c'était un jugement très très long, c'est très très long, je ne sais même pas comment ça dure encore. Il attend que tu craques.
Bon. Surtout contre les médecins.
Quoi?
Surtout contre
les médecins. Ah, c'est très très dur. Ouais. Très très dur. Non, c'est pas. Enfin, c'est très dur. Non, parce qu'après, à la fin, tu laisses les avocats faire leur boulot. Mais c'est très très long. C'est long. C'est long. Alors, je t'aurais expliqué. Afal piken, quand même, ala nizak kvar nixar minashamaim. Que même si c'est une personne avec un libre arbitre qui a décidé de me faire une crasse et de m'embêter, et qu'il y a un monsieur qui est venu et qui a dit, je te hais, et il me décolle une droite. Et il me hait, cette personne-là. Je ne vais pas me raconter que c'est Dieu qui l'a envoyé cette droite.
Mais tu dis pas merci lui.
D'accord. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit comme ça. On dit non. En vérité, Akadosh Baruch Hu a décidé que je devais recevoir une droite. Voilà, c'est comme ça. Verbe shluchim la makom. Et Dieu, il a beaucoup de shluchim. C'est-à-dire que si c'était pas lui, ça aurait pu être un autre. Et la raison pour laquelle cette personne-là va être punie, parce qu'il a décidé d'être lui le messager du mal, le porteur du mauvais message. D'accord. Comme ce qu'a dit Yosef, Mershaï Mietzer Racha, que Dieu s'arrange pour qu'autour d'un Racha tourne. Hein, autour d'un rachat, comme tu as dit tout à l'heure. Autour d'un rachat, tourne le mal.
Tourne des rachats.
Bon. Maintenant, la Admor HaZaken va aller encore plus loin que ça. Et là, il va nous montrer sa force. Il va dire pas seulement ça. Là, jusqu'à présent, on s'est focalisé sur... On va prendre l'exemple de... Par exemple, on va prendre l'exemple d'un meurtre. Ou voilà, quelqu'un qui est venu, je pense qu'il parlait de meurtre. Quelqu'un qui est venu, qui m'a décollé une droite. D'accord ? Non, parce que c'est important, parce que c'est... Dans tous les méfarchines qui parlent de ça, ils parlent le cas de meurtre. Donc on va prendre un cas, un exemple d'une personne qui est venue ici qui m'a frappé. Elle m'a frappé. D'accord ? Nous on se focalise sur ce qui s'est passé avant et après le coup. On dit que bon, avant le coup, certainement que j'ai dû faire quelque chose qui... Ou bien c'est peut-être un petit coup. Et après le coup, je me dis certainement que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait et que ça devait m'arriver. Mais on a beaucoup de mal à comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant le coup. J'explique ce qu'il va dire ici. Il dit ici comme ça. Il dit, quand cette personne-là est venue, il a pris sa gâchette, d'accord ? Il a tiré sur sa gâchette avec le pistolet. Il a besoin d'avoir une énergie dans sa main. Qui c'est qui lui donne cette énergie ? Qui lui donne cette énergie ? Qui lui donne son souffle de vie ? C'est Dieu. Et pourquoi Dieu ne pouvait pas lui arrêter son souffle de vie ? Est-ce que ça veut dire que c'est Dieu qui est en train de tuer ?
Non, c'est libre arbitre.
Non, attention, écoute bien ce que je viens de dire.
Oui, mais c'est-à-dire, s'il y a l'énergie, Dieu, à tout moment, il peut l'arrêter.
Si Dieu cautionne ça, la preuve, c'est qu'il n'arrête pas son énergie. Dieu aurait pu lui faire qu'il a un arrêt ou un truc, ou un doigt qui se bloque, ou ce que tu veux.
Mais à ce moment-là, il peut ne pas te laisser faire de la vérote du tout.
J'ai compris.
Non, mais... Alors, on sait aussi que Dieu, il nous envoie des souffrances.
J'ai compris, non.
Oui, non, mais quelque part.
Moi, ce que je vais expliquer à l'Admor HaZaken, il dit, ok, il n'y a pas de problème. D'accord, vous voyez comment il pousse le bouchon progressivement.
Est-ce que ça veut dire finalement qu'à n'importe quel moment, Dieu peut aussi faire qu'il n'y a pas d'énergie.
Il pousse le bouchon progressivement. D'abord, il nous a dit, ça vient de Dieu. Ok. Après, il t'a dit, même si c'est un homme qui t'a causé du tort, de toutes les façons, ça devait t'arriver. Ok. Là, il va pousser le bouchon encore plus loin. Il va dire, tu sais quoi? Au moment où cet homme a levé sa main pour te frapper, la force qu'il avait dans sa main lui vient de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu était avec lui quand il t'a frappé. Et que c'est Dieu qui t'a frappé. Ah, pourquoi on va le punir ? On va le punir parce que c'est lui qui a décidé de véhiculer cette énergie. Mais ça, c'est encore plus fort ce que je viens de dire ici maintenant. C'est-à-dire que même au moment où il est en train de te frapper, c'est pas seulement après comment on va expliquer et avant ce qui s'est passé. Au moment qu'il est en train de te frapper, la force qu'il va déployer pour te frapper, cette force vient de Dieu.
Donc c'est du libre arbitre ou
plus? D'accord. Non, ce qu'on a expliqué, c'est que finalement...
Le libre arbitre ne peut pas être... Ne pas
le
être
libre arbitre, ici, est très limité.
Le libre arbitre ne peut pas être le porteur de l'énergie, quoi.
Ça veut dire que finalement, c'est comme je te donnais un exemple, c'est une voiture qui roule de toutes les façons. Et toi, t'as un libre arbitre, est-ce que je prends l'autoroute à droite ou à gauche? C'est ça ton libre arbitre. Ton libre arbitre, c'est pas est-ce que la voiture va rouler ou pas. La voiture, elle va rouler de toutes les façons. C'est bon, tu décides à droite ou à gauche.
À droite, je crée un personne, à gauche, je m'écrase.
Voilà, c'est toi qui décides. Lui, il a décidé de prendre son énergie et de frapper avec. Donc, il a décidé d'être le messager du mal. Mais ce qu'on va t'expliquer ici, c'est que même au moment où il est en train de frapper, qui c'est qui est en train de frapper? C'est Dieu. C'est ce que le Baal Shem Tov a écrit dans son Tzavat Haribash, dans son livre du Testament du Baal Shem Tov. Et sur ça, ça a beaucoup jasé. Ça, tout à l'heure, je vous dis. Parce que les gens, il y a eu beaucoup, c'était très critiqué, ça.
C'est pas simple, ça.
C'est pas simple, c'est très compliqué à accepter ça. Parce que là, on a poussé le bouchon très loin, là. On est en train de te dire qu'au moment où il a frappé, c'est Dieu qui frappe. Au moment où il tue, c'est Dieu qui tue. Au moment où je fais une avéra, je continue avec la même logique.
Bien sûr, je suis pas responsable.
D'accord. Au moment où je fais une avéra, non, je suis responsable pour ma décision de faire l'avéra. Imaginez-vous une personne, il va faire une avéra, il va faire une bêtise. Il va aller au McDo, d'accord, il va prendre un, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut prendre, d'accord, un Big Mac, pas cachère à 100%.
Il y a des d'accord.
Il va prendre un Big Mac tarif à 100%, voilà. Tarif à 100%. Et ben, qu'est-ce que va te dire Baal Shem Tov? Baal Shem Tov va te dire, mais comment il a fait pour mettre la main dans sa poche, pour payer, pour le prendre, pour croquer, pour mâcher, pour digérer? Il faut une énergie pour ça. Qui donne cette énergie? C'est Dieu. Donc Dieu était avec lui. Et Dieu, quelque part, est intéressé par cette faute, sinon il aurait arrêté. Ah, alors pourquoi on le punit pour sa faute? On le punit pour sa faute parce que lui, il a décidé d'être celui qui va véhiculer le mal. C'est très compliqué à comprendre ça. Et on comprend comment si c'est mal expliqué, ça peut faire des explosions, ça.
Il y a des Big Mac, je crois, avec du fromage aussi.
Et donc, ah, ça c'est le. Ouais, mais bon, bah, tant qu'à faire.
Ouais, mais est-ce que la Vera, quand tu manges du taref avec du fromage, ça les tire? Je sais pas, moi.
J'ai rigolé.
C'est une question bête, mais.
Ouais, pas de question bête.
Est-ce que déjà, tu manges pas cachère?
Tu fais deux fautes.
Mais est-ce que tu mélanges cette viande non cachère avec du fromage? Est-ce que ça change quelque chose?
Deux
fautes.
Tu crois?
Bien sûr.
Attends, ça
fait. Bon, d'accord. Deux parce que tu mélanges la viande en plus. Je ne sais pas.
De mémoire, on dit que quand...
chaque bouchée.
Non, je ne sais pas.
On dit que de mémoire, hein, on dit que quand c'est de la viande d'un animal qui est pas cachère,
chaque bouchée c'est de la
viande. Il n'est pas considéré comme de la viande.
C'est pas considéré comme basar halal.
Tu vois? Alors c'est donc.
Il faut que ce soit un animal qui n'est pas cachère.
Ah, du bœuf, tu peux pas.
Du cochon, voilà. et du
fromage. Ouais, du cochon.
Voilà, du
cochon et du porc, c'est bon.
Du bacon avec du fromage, tu peux, quoi.
Ouais. D'accord, de mémoire. Hein. Mais par contre, quand c'est du bœuf, même s'il n'y a pas de la shrita, comme c'est du bœuf, tu peux pas, c'est caché. C'est un animal qui est tard. Donc, je vais reprendre un mot parce que ça, c'est extraordinaire ce qu'il dit ici. Il faut accepter ce qu'il dit ici, là. Véload.
Il faut comprendre, surtout là. Parce que...
Vous avez Véload?
Véload ici.
Véload, et pas seulement ça. Et là, seulement, Afilou Béchazo Mamash, dans ce même instant, chez Makehu, que l'autre est en train de me frapper. Oh, Mekalelo, qui m'insulte! Il m'insulte! S'il m'insulte, c'est qu'il y a une énergie pour m'insulter. D'où lui vient cette énergie? Mitla Bechbo va s'habiller en lui. Pas dans la victime. Dans celui qui est en train de causer le dommage. Kohar Hashem Veru Arpiv, la force de Dieu et le souffle de sa bouche, Idbarer, Amechayehu ou Mekaimehu. C'est Dieu qui est en train de faire vivre cette personne et c'est Dieu qui lui donne la force pour m'insulter. D'accord? Ah, parce que Dieu est, quelque part, Dieu est d'accord de ça. Et ça vient de Dieu. Et Dieu a un intérêt de ça. On ne sait pas lequel. Des fois, on comprend. Plus tard. Des fois, on comprend pas. Des fois, on comprendra. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais Dieu a un intérêt, c'est sûr que Dieu a un intérêt de ça. Bon. Comme moi, j'ai Katou, comme c'est écrit.
Qu'est-ce qu'il y a? Donc, l'interdiction, elle est de... On va dire, finalement, moi, c'est bien. Même si c'est pas grave, c'est Dieu qui veut... Je veux même le chaliard d'or de Dieu, que ce soit pour le bien ou pour
insulter quelqu'un. Pourquoi parce que pas? Dieu te dit...
Si je suis le chaliard
Dieu
de Dieu.
Dieu te dit, tu dois tout faire pour être le chaliard, pour véhiculer
le bien
et pas le mal.
Voilà.
D'accord? Mais un mal qui t'arrive était voulu par le cadavre.
T'as eu un doute, quoi.
Non, je dis bon, la personne peut se dire bon, finalement bon, c'est pas grave, je me suis fâché avec lui, j'ai fait, mais finalement j'ai véhiculé,
Non, des fois ça peut faire de la peine.
Ouais.
Ça veut dire quand t'as des fois des gens comme ça qui te, qui t'embête, etc. Des fois, ça peut faire de la peine. Parce que on sait que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, que certainement Akadosh Baruch Hu, il attend que tu trouves en toi des forces, etc. Ça en accepte. Mais des fois, ça peut te faire de la peine. Ça, la Torah ne t'interdit pas d'avoir de la peine.
Ça fait toujours de la peine.
D'accord, ça fait de la peine. Ça te fait de la peine, surtout quand c'est quelqu'un que tu as connu. Quand c'est quelqu'un que tu as connu, ça fait beaucoup de peine. D'accord. Mais bon, ça c'est une autre question. Ça, mais il n'y a pas de colère. La colère, il n'y a pas. On a mis de côté le mot colère. Donc il dit, c'est vélo, c'est pas seulement ça. Et là. Afil, donc Moshekatou, pardon, comme c'est écrit, qui Hachem Amarlo Kalel. Alors en vérité, tout ça, tout ce que le Morazakam vient d'expliquer ici, c'est écrit dans un pasouk de Shmuel, dans la Bible. Et là-bas, c'est écrit comme ça, c'est écrit qu'à un certain moment, on est en train de défendre un jeune homme qui avait frappé. Et comment on a défendu? On a dit, parce que c'est Dieu qui lui a dit de maudire. On a dit, c'est Dieu qui lui a dit. Comment c'est Dieu qui lui a dit? Dieu lui a dit de maudire.
Kalel, ça veut dire quoi?
Maudire. Kalel. Pourquoi?
Je regarde parce que mes enfants, ils appellent ma fille Kalel. Ou de Shirel.
Ah non,
mais non, surtout pas.
Vous changez de
surnom. Surtout pas.
Ah, mais parce qu'ils prononcent mal, tu vois.
Comment chez Katoub, comme c'est écrit, Kachem Amarlo Kalel. Et Hanama. Et où on a dit ça, les Shim'i. Alors, vous savez, c'était quoi l'histoire là-bas? L'histoire qu'on raconte dans Shmuel, c'est qu'il y avait une personne qui s'appelait Shimri Ben Gera. Et cette personne-là, il a maudit David.
David
Améler. Connais l'histoire.
Mais il lui a rien fait. Et après, il a dit.
Et David Améler lui a rien fait. Et les gens sont venus se plaindre. Ils ont dit, mais pourquoi? Comment papa, c'est Shlomo Améler qui s'est plaint. Il est venu voir son père David. Il dit, mais comment papa, tu te laisses faire? Les gens, ils t'insultent, tu te laisses faire. Qu'est-ce qu'a dit David Améler? David Améler, il a dit, je lui fais rien. Parce qu'il dit, Hachem Amarlo Kalel. C'est Dieu qui lui a dit de me maudire. Ça, c'est voilà, 5 mots. 5 mots qu'on n'a jamais compris, maintenant on comprend.
Wow.
Où on a vu que Dieu a demandé à Shimi de maudire Dieu, de maudire, pardon, de maudire David. Il n'a jamais demandé. On n'a jamais vu dans l'histoire que Dieu a demandé à Shimi de maudire David. Alors pourquoi David Améler a dit, c'est Hachem qui lui a dit de me maudire. Maintenant on comprend. Et là seulement, chez Marsha Vazo, cette pensée, chez Nafla le Shimri, qui est tombée dans la tête de Shimri. Velibo ou Moro, d'abord dans son cœur,
et après dans sa tête.
Dans sa parole, de maudire David. Yardam et Hachem. Cette pensée est venue de Dieu. Vous croyez que c'est par hasard comme ça que... Il y a des fois des choses qui ne nous dérangent pas, et des choses qui nous dérangent, qui nous énervent. Vous croyez que c'est par hasard? Pourquoi Shimi, il a eu envie d'insulter David? Pourquoi il n'a pas eu envie d'insulter Monsieur Shimon? Pourquoi il a envie d'insulter David? Parce que c'est Dieu qui a fait qu'il y avait un certain comportement chez David qui l'énervait. Et là, la seule marge de manœuvre qu'avait Chimie, c'était quoi? C'est, est-ce que je me retiens ou je me retiens pas? C'est la seule marge de manœuvre qu'on a. Ça veut dire que, ni je maîtrise le problème qui va venir, ni je maîtrise rien du tout. Ni je maîtrise si ça va m'énerver, ça va pas m'énerver. La seule chose que je maîtrise, c'est, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je décide d'attaquer, ou est-ce que je décide de laisser?
La question surtout, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour énerver Akadosh Baruch Hu?
Et donc, c'est pour ça, hein. Non, finalement... c'est pas, qu'est-ce d'énerver? Faut pas voir les choses comme énerver. Akadosh Baruch Hu, quand il envoie quelque chose qui nous paraît comme punition, d'abord ça peut être un tikkun, ça peut être une histoire de Neshamot, d'accord? Ça peut être que la personne y prend pour le klal. Vous savez que des fois il y a des gens qui prennent pour leur famille, il y a des gens qui prennent pour d'autres personnes du klal, il y a des calculs complexes d'Akadosh Baruch Hu. Quand on a une épreuve qui nous arrive, ça veut pas dire qu'on a un mauvais comportement. Il faut chercher, faut se poser les bonnes questions.
Faut comprendre sur soi.
Mais ça veut pas dire forcément qu'on a eu un mauvais comportement. D'accord. Si on sait qu'on a fait d'Averot, c'est une chose.
Au contraire, souvent même des hommes de Torah et autres qui ont des trucs, c'est...
Ils prennent pour les autres. Ils prennent pour le clan.
Clan.
Nous, on n'est pas à ce niveau-là. Nous, quand on est quand je vois qu'on nous envoie quelque chose, on sait que... Je dis bon, ça va, j'ai compris le message.
Mais des fois, c'est vrai que des fois, ça atteint des personnes qu'on sait que ça peut pas être pour eux.
Ah, mais des fois, tu peux avoir un truc qui te tombe sur la tête alors que ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir. Non, t'as pas fauté. Il y a des choses, des fois, qui tombent sur la tête, t'as pas fauté. En tout cas, sur ça, t'as pas fauté, il n'y a pas de rapport. Et Dieu, il t'envoie.
On n'est pas dans le calcul.
Et là, donc, il te dit, Yardamet Hachem, cette pensée qui est venue dans la tête de Shimri, qui a maudit
David
Améler, elle est venue de chez qui? De chez Akadosh Baruch Hu. Verouar Piv, le souffle de sa bouche. Le souffle de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Amechaye Kolzvam, c'est le souffle de la bouche d'Akadosh Baruch Hu qui fait, si on peut dire ça comme ça, qui fait vivre toute l'énergie du monde, donc toutes les armées du monde. Echeya Rucho Shel Shimri Besha'a Shel Diber Dvarim Elou Le David. Voilà, là c'est clair. Au moment où Shimri était en train de parler, il a une énergie, il faut déployer une énergie pour insulter. Surtout quand on insulte là-bas, il a insulté avec les nerfs. Il faut déployer une énergie. Qui lui a donné cette énergie? C'est Dieu. Ça veut dire qu'en vérité, ce qu'explique la Gemara Zaken, c'est que Dieu, en vérité ici, c'est Dieu qui a puni David sur toute la ligne. C'est Dieu qui a mis dans la tête de Shimri de vouloir maudire David. C'est Dieu qui a fait que Shimri a vu une certaine scène qui l'a énervé. D'accord? Suite à quoi il a voulu maudire David. Donc d'abord, il a pensé dans son cœur, après,
dans sa tête.
C'est Dieu, et quand Shimri maintenant a décidé de passer à l'acte et d'insulter, qui c'est qui lui a mis le souffle dans sa bouche?
Dieu.
C'est encore Dieu. Qui c'est qui lui a mis les mots dans la bouche? C'est encore Dieu. Alors qu'est-ce qu'a fait Shimri?
Il a accepté
d'être le messager.
Ouais.
D'accord? Mais ça, c'est très fort. Ça, c'est un chidouche du Baal Shem Tov, ça. Parce que jusqu'au Baal Shem Tov, tout le monde disait que c'est Akadosh Baruch qui est derrière.
Comment on fait pour accepter d'être le véhicule?
Comment on fait?
Pour accepter d'être le véhicule.
Non.
Pas accepter. Non, je pose la question.
Pour ne pas accepter?
Pour accepter ou pour ne pas accepter? Puisque c'est Dieu finalement
c'est
qui guide tout.
Mais non.
On peut dire qu'il a accepté que
Dieu,
je sois le véhicule.
Dieu, la seule marge de manœuvre que Dieu te donne.
Oui.
Comme j'ai dit, la voiture, elle roule de toutes les façons.
D'accord.
La seule marge de manœuvre que Dieu te donne, c'est à un certain moment, voilà, il t'a montré quelque chose qui t'énervait. D'accord? Il a fait que ça t'énerve.
Mais toi, tu l'as dit, donc je veux
pas. Il a fait que tout est en place.
Tu as repoussé.
Pour que tu exploses et qu'il y a le feu.
Et tu as repoussé.
D'accord? Maintenant, la seule marge de manœuvre que tu as, c'est qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu plonges ou est-ce que tu te retiens? C'est très difficile. Le gars, il est là, il est suspendu dans les airs, il attend ton. Il plonge.
D'ailleurs, il s'est pas vengé sur ça. Après.
Ah non, il s'est pas vengé. Non.
Il s'est vengé parce qu'il a manqué de respect à la malchoute.
Oui. Et que là, c'est par rapport à la royauté, il est obligé de défendre. Il n'avait pas le choix.
Mais même pas lui.
C'est chaumont.
C'est comme ça que des personnes, elles n'acceptent pas d'être véhicule pour un truc, elles mettent, et d'un coup, elles sortent tout le contentieux. Pour rien d'un bloc.
Ça
peut arriver aussi. Tu ranges, tout d'un coup, tu disais, voilà, ça y est, c'est fini le stock, à ce coup-ci, je déballe.
Pour faire de la chassidoute.
Regarde. Non, ça peut.
Ça peut arriver, c'est pour ça qu'il faut la chassidoute pour permettre de mettre de l'ordre dans les idées.
Pour évacuer dans les bonnes cases.
Il dit qu'il ou nistalek roar pivit barer rega erad meru rochel shimri. Si le souffle de la bouche de Dieu, si l'énergie de Dieu avait quitté un seul instant
la bouche
de Shimri, lo yachol et d'aver meuma, Shimri n'aurait pu rien dire. Comme je dis encore une fois, c'est quelque chose sur lequel il y a eu beaucoup de gens qui ont écrit des lettres contre ça, qui ont dit comment on peut dire ça? Nous, on croyait que quand on faisait une avéra, c'est le Satan, c'est le Yitzhara, mais comment on peut dire ça à Kadosh Baruch Hu? Ben, je t'ai dit non. Il n'y a rien dans le monde qui n'échappe à Kadosh Baruch Hu. Rien. À Kadosh Baruch Hu maîtrise tout.
Quel est le rôle du Satan alors?
D'accord. Encore une fois, le Satan, c'est le messager. Le Satan, Dieu met tout en place. D'accord.
Non, mais de toute façon, quand tu dis ça, effectivement, que disait Pessel Satan, ok,
Dieu,
par rapport à ça.
Dieu, il met tout en place. Il met en place le système, il met en place que ça m'énerve, il met en place que je suis prêt à m'énerver, il met en place qu'il y a une situation dans laquelle je peux m'énerver et que c'est bon, tout est là, d'accord. Il me met en place le Satan après pour m'attaquer, m'attaquer
voilà.
En justice.
Quelle place il reste au Satan?
C'est-à-dire qu'il a mis les caméras, avec les avocats, avec les accusateurs, tout le monde est là. D'accord. Et tout le monde est là, attend ce que je vais faire. D'accord. Si je faute, on dit, monsieur, on a tout filmé.
Donc le Satan, il te dit vas-y, c'est celui qui...
Ah,
la
oui.
Foule, c'est la foule qui
le
est derrière.
Le Satan, c'est l'accusateur, voilà. Non, parce que la Gemara dit que le Satan, c'est la même personne. Le Satan, c'est le Yetzara, le Satan et le Malach HaMavet, c'est les trois la même personne. C'est lui qui filme, d'accord. C'est lui qui te pousse.
Et celui qui te retient.
Et celui qui retient, et c'est lui qui retiendra des charges contre toi plus tard. Eh oui. C'est-à-dire que ma seule marge de manœuvre, je peux pas me débarrasser de lui. Je peux pas dire dehors, monsieur, ça marche pas. Ma seule marge de manœuvre, c'est de dire,
je le repousse,
je l'écoute pas.
Laisse-moi tranquille.
Très difficile.
Je peux le tenir à distance.
D'accord. Ou mi omarlo, donc vekanoda, comme c'est connu, ma sheisbir, à Baal Shem Tov zichrono livracha, comme c'est connu ce qui est expliqué le Baal Shem Tov, al pasuk le olam, vous rappelez, on avait étudié ça dans le Shar Echud Ve'emouna, qu'on avait étudié on avait étudié l'année dernière, à peu près à cette période, on avait étudié le Shar Echud Ve'emouna, le pasouk le olam hashem va'acha nitzav Bashamaïm, traduction. D'accord. Que à Kadosh Baruch Hu, on dit la parole de Dieu est toujours présente dans les cieux. Qu'est-ce qu'expliquait le Baal Shem Tov? Il dit, ça veut dire quoi que la parole de Dieu est toujours présente dans les cieux? Il dit, de quelle parole on parle? Il dit, on parle ici de la parole avec laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Et cette parole, c'est une parole qui est constamment ici. Et si Akadosh Baruch Hu décidait d'enlever, vous rappelez, on avait expliqué très très longuement ça l'année dernière, si Akadosh Baruch Hu décidait d'enlever l'énergie qui fait vivre ce ver, ne serait-ce qu'un seul instant, ce ver cesserait d'exister. Donc ça veut dire que Shimri, qui était en train d'insulter, si Akadosh Baruch Hu avait décidé, ne serait-ce qu'un seul instant,
d'arrêter l'énergie,
Chimie aurait, c'est même pas qu'il aurait cessé d'exister, il n'y aurait plus de chimie. Personne, il n'y aurait plus personne. C'est même pas qu'il est là, paralysé, il n'y aurait eu plus personne. Donc on est obligé de dire ce qu'Akadosh Baruch Hu est derrière tout ça. Seulement, quelle était la marge de manœuvre de Chimie? C'est de lui décider d'être le messager. D'accord? Bon, d'un autre côté, ça nous rassure aussi beaucoup quand on doit faire Tshuva sur nos Averot. Parce que, quand on doit faire Tshuva sur nos Averot, on a fait des fois des fautes. Et on se dit, c'est pas possible, comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu faire un truc comme ça? Comment ça peut me passer par la tête? Et quand on se dit que finalement, l'énergie que j'ai déployée au moment où j'ai fait la Avera, c'est une énergie qui m'a été donnée par Akadosh Baruch Hu, donc je me dis certainement que Akadosh Baruch Hu, il a un intérêt de cette Avera que j'ai fait.
Oui, mais on a dit aussi qu'on avait le choix de ne pas le faire.
J'ai compris. Mais le fait qu'Akadosh Baruch Hu m'a laissé faire la Avera, dit le Baal Shem Tov, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est intéressé de cette Avera. Seulement, pourquoi on m'a puni? On m'a puni parce que moi, j'ai décidé de la faire, la verre. Mais si c'était contre la volonté de Dieu, j'aurais pas eu l'énergie pour la faire. Ou ça ne serait pas présenté à moi. Il y aurait un blocage. Combien de fois, quand on veut faire des choses, ça se bloque? Pourquoi là, ça s'est pas bloqué quand j'ai voulu faire la verre, hein? D'accord. Donc ça, c'est le rabbi, il explique comme ça. Il dit qu'en vérité, très souvent, à Kadosh Baruch Hu, il est intéressé par la tshuva qui viendra après la verre. Mais nous, on n'a pas le droit de réfléchir comme ça. Mais ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, on peut faire, nous, on n'a pas le droit. Si à sourd, c'est à sourd. On n'a pas le droit de le faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même quand on fait une Avera, l'Avera, il y a un ratson d'Akadosh Baruch Hu, il y a une volonté de la part d'Akadosh Baruch Hu de me laisser faire l'Avera.
On sait que justement ça, la Teshuvah, c'est ce que Dieu il veut.
Donc Dieu il veut la Teshuvah.
Que...
Non. Mais le Baal Shem Tov, il pousse plus loin que ça. Il dit pas seulement, c'est pas seulement que Dieu veut la Teshuvah.
Donc on revient vers lui.
C'est que même au moment où j'ai fait l'Avera, celui qui m'a donné l'énergie pour faire l'Avera, c'est Dieu. Je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si, par exemple, t'as un patron qui a un employé qui se rebelle contre lui. Et le patron, l'employé, il a besoin de fonds. Qui lui donne les fonds? Tous les matins, c'est l'employeur qui vient, qui lui donne les fonds. Qui lui dit, voilà, tiens les fonds, je sais que tu vas te révolter contre moi, tiens les fonds. C'est un fou, pourquoi il fait ça? Il est malade ou quoi? C'est quoi le pchat? Le pchat, il faut comprendre, c'est qu'en vérité, c'est la Kadosh Baruch Hu qui est derrière. Très compliqué à comprendre ça. D'accord? Donc chez Tsiruf Otiot Cheni Vreu Baem Hashemaim Shumamaya, Hen Itzavat Amdot Melubashot Bashamil Lam Lachayotam Ulekaima. Velo ka philosophim, je finis avec ça pour aujourd'hui. Velo ka philosophim, pas comme les philosophes, chez Kofrim Bashgacha Pratit, qui renie l'Ashgacha Pratit, ça veut dire la croyance que tout ce qui se passe dans le monde est directement géré par la Kadosh Baruch Hu. Ou Medam et Bedimion Amakozeb, les philosophes s'imaginent dans leur imagination. Et maase Hashem, Moshe Shemaim va arrêter maase d'ajouter boulotav. Ils vont comparer ce que Dieu a fait. Est-ce qu'un homme a fait ça? On avait expliqué longuement que quand moi, par exemple, je vais prendre du plastique et avec le plastique, je vais façonner un verre. Je vais poser le verre. Je peux aller maintenant en Ulule. Est-ce que le verre sera toujours là? Oui. Pourquoi le verre sera toujours là? Parce que moi, je n'ai pas créé le verre. Rappelez, on avait expliqué ça longuement. Je n'ai pas créé le verre. Qu'est-ce que j'ai fait avec ce verre? Regardez, j'avais du plastique. J'ai pris du plastique,
j'ai transformé.
Ça veut dire que j'ai transformé de la matière. Donc c'est pour ça que j'ai rien créé. Mais ma chaîne, qui est alors que dans la création du monde, Dieu n'a pas transformé quelque chose. Il n'est pas parti, il n'a pas transformé d'un état existant à un autre état existant. Dieu a créé ex nihilo. Ça a expliqué le Baal Shem Tov, il a expliqué que ex nihilo, c'est quelque chose que Dieu a besoin constamment d'être là pour le faire vivre. Il avait donné un exemple, je m'arrêterai avec là. Alors, je m'arrêterai ici pour aujourd'hui. Il avait dit, c'est comme si vous preniez un ballon. Vous prenez un ballon, vous le jetez en l'air. D'accord? Prends un ballon, tu le jettes en l'air. Jusqu'à quand le ballon va monter en haut?
Tant que la force pour d'attraction, elle est inférieure au...
Tant que la force
d'envoi,
tant que la force d'envoi est supérieure à la force de l'attraction.
Voilà.
Dès que la force d'envoi est moins forte, qu'est-ce qui va se passer? Naturellement, le ballon va retomber. Donc, si tu veux que le ballon il reste en haut, il faut constamment déployer de l'énergie, ne serait-ce que pour le
maintenir
en haut. Ben, le Baal Shem Tov dit c'est la même chose. La création du monde, c'est quelque chose qui est contre la nature. Normalement, le monde devrait à chaque fois cesser d'exister. Il devrait à chaque fois tomber. C'est comme un ballon que tu veux maintenir en l'air. Même pour le maintenir, il faut une énergie, il faut quelqu'un qui le tienne. Donc si Akadosh Baruch Hu a arrêté de maintenir le monde, ne serait-ce qu'une seule seconde, le monde arrête d'exister. Tout ça pour nous dire quoi? Tout ça pour nous dire... Bon, après on va développer.
Tu dis avec le mouvement des astres, tout ça, cette énergie ou pas?
Quelle énergie?
Le fait qu'il y ait toujours une révolution, que ce soit de la Terre, des astres, de machin, que tout tourne, est-ce que on considère aussi que ça c'est de l'énergie de...
C'est l'énergie.
Non, mais ça, c'est une énergie finalement physiquement, on la voit, on la constate.
C'est sûr qu'on la constate.
Qu'il y a une révolution de la Terre, du machin.
Révolution et du magnétisme, voilà. Et des tas de choses. Ouais.
Donc, est-ce que cette énergie-là, déjà, ça.
C'est déjà classé.
C'est une notion qui est. Qui
bien
est...
sûr, bien sûr, bien sûr.
D'accord. Parce qu'on aurait très bien pu avoir des trucs statiques, je sais pas. Ou, statiques non, parce qu'il y a avec le soleil qu'il faut éclairer et autres.
Tu sais, il y a tellement de détails aujourd'hui. Surtout, ouais. Aujourd'hui, comme le rabbi dit, la science nous aide à mieux croire en Dieu. Il y a tellement de détails, ne serait-ce que l'angle de la Terre.
L'inclinaison.
D'accord, l'inclinaison de la Terre, l'angle d'inclinaison de la Terre. Ne serait-ce que la vitesse à laquelle la Terre elle tourne. D'accord. Ne serait-ce que la vitesse à laquelle le Soleil tourne. La vitesse à laquelle, la distance du Soleil. Aujourd'hui, on sait dans la science que si ces choses-là étaient décalées même pas de 1%, d'accord, on aurait pu brûler, on aurait pu, notre univers ici aurait pu être plein de glace, que de la glace. On sait que toutes les saisons, c'est juste grâce à l'inclinaison. On sait aujourd'hui dans la science, c'est tout ça. Et ces choses-là, ça ne va pas se faire par hasard. Tu ne peux pas venir dire que c'est fait par hasard. Il y a tellement de détails que si ça avait été modifié d'un seul pourcent, ils disent comme ça aujourd'hui, vous savez, l'angle d'inclinaison, si c'était modifié d'un seul pourcent, on n'aurait pas eu les saisons, le monde aurait été plein de glace, etc. Le monde a besoin de ça. Et tu ne peux pas dire que c'est fait par hasard. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que quand il y a quelque chose qui m'arrive, même si c'est quelque chose qui ne me plaît pas, et que je ne suis pas content, je dois me dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'envoie. Et même si c'est une personne qui a décidé de m'embêter, et qu'au moment de m'embêter, je vois qu'il veut m'embêter, il sera puni pour ça. Il sera puni pour avoir décidé d'être le messager. Mais, ça change pas que, faut savoir que c'est pas lui qui m'envoie le problème, c'est Dieu qui m'envoie le problème. Dieu, il a quelque chose qu'il veut de ça. Je sais pas ce qu'il veut, mais il veut quelque chose de ça. Et plus que ça, au moment où il est en train de t'embêter, l'énergie qu'il développe, qui c'est qui lui donne cette énergie? Akadosh Baruch Hu. Quand on voit tout ça, ça nous permet de mettre en proportion beaucoup plus quand t'as quelqu'un qui vient t'embêter, ça te permet beaucoup plus de comprendre ce qui se passe et d'être beaucoup moins dérangé. Beaucoup moins dérangé, c'est bon, Akadosh Baruch Hu m'envoie, dans ce cas-là, on va réfléchir avec Akadosh Baruch Hu.
Quand tu peux dire, pourquoi t'as choisi d'être de véhiculer toi?
Non, faire de la peine, ça fait de la peine.
Pourquoi toi, tu as choisi de véhiculer?
Faire de la peine, ça fait de la peine. D'accord?
Vous m'êtes bien aimable.
Vous savez, on dit comme ça, on dit que par exemple, on dit que Akadosh Baruch Hu, ça c'est un mot du rabbi ça aussi, je vais finir avec ça. Le rabbi il dit que Akadosh Baruch Hu, il décide chaque année à Rosh Hashanah, si je vais essayer de traduire ça en français, il décide chaque année combien de prises de tête on aura dans l'année. Prises de tête. D'accord, ça dit voilà, cette personne-là aura tant de taux de prises de tête, de galère. Maintenant, si moi, je vais venir étudier la Torah, et je vais me prendre la tête dans la Torah, et bien chaque fois que je me prends la tête dans la Torah, ça enlève de la prise de tête d'ailleurs. C'est pas des blagues. C'est pour ça que vous pouvez avoir des gens qui sont des bénis Torah, qui sont très pauvres, mais qui sont zen. Et d'un autre côté, c'est des gens qui sont extrêmement riches, mais qui sont pas tranquilles. Qu'est-ce que leur amène leur argent? Ni ils sont contents de leurs enfants, d'accord? Ni ils sont contents de leurs femmes, ni ils sont contents de savoir ce qui se passe là-bas, d'accord? Ni ils sont contents de leurs biens, ni ils sont contents de... Tu comprends? Ça veut dire que, par exemple, tu peux avoir quelqu'un qui a les moyens de se payer des vacances dans un hôtel 10 étoiles, si ça existait, d'accord? Et quand il va sortir, il est pas bien parce qu'il était pas exactement comme il voulait.
Parce que la serviette, elle était pas comme
il... Et donc il est pas bien, mais concrètement, le bonhomme, il est pas bien.
Il est pas bien.
Donc qu'est-ce que t'as gagné? Alors que l'autre, il était même pas à l'hôtel. Il était dans un gîte, mais il était bien. Tu le prends les deux à la fin des vacances, un il a kiffé, l'autre il a pas kiffé. D'accord? Et différence entre les deux, 50 000 euros.
Alors qu'est-ce que tu choisis?
Un il a payé. Il n'est pas bien, ça le pchate. Le bonheur, c'est quelque chose qui ne s'achète pas avec l'argent. Vraiment, c'est comme ça. Et ça, c'est la Torah qui nous permet de tout mettre en proportion. Voilà. Allez, s'arrête là.
Bon,
on va dire les chayim. Pourquoi on dit les chayim aujourd'hui? C'est une bête tamouze.
Oui, on n'a pas fait... On...